un grand auteur français qui s'appelle Bernard Noël, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui a écrit justement sur la question de la censure, dit que notre société, le grand problème de notre société, c'est de ne plus permettre le rêve, justement, de ne plus donner de perspective. Et bon, alors l'idée de réenchanter tout ça, bon, je sais pas, appelons-le comme on veut, mais en tout cas, l'endroit du théâtre essaye de se placer à cet endroit-là, et notamment avec la jeunesse. Peut-être, Annie, tu voulais peut-être dire un mot, parce qu'on parlait juste à la montée des populismes, et tu as rencontré, toi, par exemple, comment on appelle ça, ça y est, le mot me revient plus.
Des bibliothèques.
Oh, merci. C'est pour ça qu'on est deux modérateurs.
Oui, et c'est vrai que c'est... Enfin, en faisant écho à ce que vous dites, c'est effrayant parce que... Bon, moi, j'habite en Bretagne. Ça fait très longtemps que je travaille autour de littérature pour enfants et adolescents dans la région et aussi en Anjou, etc., dans le Grand Ouest, quoi. Bon, puis on se sent bien. Voilà, il se passe plein de choses. C'est intéressant. Et récemment, j'ai appris... Alors, je suis invitée régulièrement, par exemple, au Salon du Livre Jeunesse de Lorient, qui est un truc absolument fabuleux. Voilà. Là où j'étais un peu étonnée, même si j'ai le sentiment d'être quand même assez au courant pour avoir exploré aussi cette nébuleuse extrémiste du point de vue des publications. Par exemple, quand j'ai travaillé sur Qui a peur, j'ai quand même lu des choses qui ont été publiées, hein, mais il y a longtemps. Et du coup, avec toujours ce sentiment un peu de se dire, allez, c'est du passé. Ça va pas revenir, le bruit des bottes, quand même. Pas si vite, pas comme ça. On se dit que c'est pas possible. Ben si. Voilà. Et à Lorient, on est loin de tout ça, jusqu'au moment où on s'aperçoit, et là on va parler d'argent aussi, l'argent, le nerf de la guerre, hein. La liberté, elle dépend effectivement étroitement du fait qu'on soit capable de financer, au sens de la responsabilité collective, hein, de financer les gens, les créateurs. Voilà, parce que sinon... Sinon, le danger, il grossit de manière effrontée, quoi. Et il en profite, quoi, comme une espèce de verrue, là. Voilà. Bref. Ah non, moi, je trouve pas ça... Je trouve que, malheureusement, ça me déplaît profondément de voir que ça fonctionne de manière simple. Malheureusement. C'est hyper simple.
Non, mais le monde est compliqué, et c'est...
Non, là, mais là...
C'est de l'expliquer simplement.
C'est-à-dire de dire, par exemple, qu'à Lorient, je vous explique brièvement ce qui se passe à Lorient, c'est hallucinant, parce qu'on ne l'a pas vu venir, en fait, c'est surtout ça. C'est l'idée que... Alors, le festival, le Salon du Livre de Lorient, il est financé par... Il y a beaucoup de bénévoles, il y a une foule de bénévoles qui travaillent là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. C'est merveilleux, le travail qu'ils font, quoi. Mais évidemment, il y a un financement municipal, un conseil général, voilà, une collectivité locale, peut-être, je ne sais pas, je ne suis jamais intéressée à ces questions-là, en fait. Mais je l'ai su parce que, quand j'ai été alertée sur le fait qu'il y avait une espèce de chose qui est en train de se produire depuis 2 ans, c'est-à-dire, il y a aussi donc des financements privés, des entreprises, voilà, les gens voilà, donnent, ils ont après leur logo là, sur toutes les affiches, du salon pendant une semaine et tout, ça marche comme ça. C'est la pression, une pression qui vient de l'extérieur pour dire si vous continuez de financer cette espèce de fabrique de liberté, eh ben, on va s'arranger pour détourner votre clientèle. Voilà, ça c'est contre les entreprises privées. Parce que dans le public, on est protégé par les cadres. Mais les privés, moi je parle des entreprises, alors ça peut être, je ne sais pas moi, des entreprises de l'industrie locale, la pêche, enfin je ne sais pas, même les agriculteurs, enfin je ne sais pas, tout le monde peut finalement contribuer à sa manière, comme on le fait, les commerçants, etc. Imaginez qu'on vous dit du jour au lendemain, bon, vous arrêtez de donner des sous à ces gens-là, parce que du coup, sinon vous allez perdre vos clients, et du coup vous allez faire faillite. Voilà. Ça, là, voilà, la bête immonde, là, elle manque le bout de son nez. Et... On attaque aussi par un autre bord, alors là, beaucoup plus franchement et de manière assez mafieuse, je trouve que c'est une technique mafieuse. J'ai vu ça dans des films, en fait, mais enfin, je pensais pas que ça pourrait se faire en vrai. C'est, en tant qu'auteur jeunesse, recevoir des petits cercueils dans sa boîte aux lettres. C'est mafieux, non, ça, on voit, je sais pas dans quel film c'est ça.
Ça existe, ça, déjà ?
Oui. Et les emails d'insultes.
Oui, ça, oui.
Les emails d'insultes, ça.
C'est violent. On n'a pas besoin d'insulter les gens comme ça.
Mais malheureusement, alors il y a une évolution.
Mais non, mais justement, alors vous êtes en train de dire.
Il y a une évolution par rapport à ça.
Non,
on peut en parler sur le rapport à la liberté.
Que ce soit les élus, il y a une montée, si vous voulez, qui tient pas mal à ce genre de petites choses aussi, qui est absolument merveilleuse, et en même temps sur lequel vous voyez des trucs effrayants. Parce que la désinformation est immédiate sur un truc comme ça. On peut raconter, vous n'avez aucun juge, si vous voulez, dans un. Bon, la presse, elle peut être plus ou moins.
Si, justement, c'est là où je m'insurge en tant que thérapeute, par exemple. Je vais parler en tant que psychologue. Il ne faut jamais laisser la violence perverse entrer, ne serait-ce que le bout du pied, dans votre maison.
Oui, mais ça
parce que dès que le pied est là, hop, la porte, elle s'ouvre et il rentre en entier. Ça, parce qu'il n'y a que la perversion qui fait ça.
Mais comment vous faites avec ça? Parce que ça...
Je ne sais pas, moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Mais je pense que les juristes doivent pouvoir trouver des trucs. Le petit cercueil dans la boîte aux lettres, on fait quoi avec? Il est anonyme, celui-là, on peut rien. On porte plein de contre. Pour harcèlement moral. Voilà, c'est tout. Bah, on fait quelque chose.
Que quand même. Si on peut identifier la personne.
Bon. Alors, ça, c'est pour la petite histoire, c'est quand même pour vous montrer l'ambiance. Quoi. Sauf que quand j'ai. Alors, c'était à Saint-Paul-Trois-Château, ça doit être. C'est pas loin d'ici, Saint-Paul-Trois-Château. Il y a un très. L'excellent aussi, le Salon du Livre Jeunesse, tous les ans, mois de janvier. Bon, cette année, je ne suis pas venue, j'avais la grippe, mais j'ai fait un Skype, ça a été une visioconférence, c'était une belle expérience aussi, et j'ai pu aller me recoucher tout de suite après, plutôt que de remonter dans le train. Donc, Saint-Paul-Trois-Château, j'ai des bibliothécaires en visuel direct, bibliothécaires qui disent, je travaille, donc, dans les collectivités territoriales, dans des municipalités FN. Voilà, les choses telles qu'elles sont. J'ai perdu ma liberté du choix. Il y a un droit de regard sur la sélection des ouvrages qui vont, surtout les ouvrages jeunesse. Alors, tenez-vous bien, c'est pas par hasard. Enfin, ça, je pense que je l'ai expliqué dans mon bouquin. Mm-hmm. Pourquoi les enfants? Pourquoi les ados? Pourquoi les livres? C'est très important, les trois trucs-là. Parce que ça forge le monde de demain dont je parlais tout à l'heure. Là. Et dans la logique paranoïaque et perverse, eh bien, le monde de demain doit être absolument identique à celui d'aujourd'hui parce que c'est une rigidité mortifère à laquelle on a affaire. Il ne faut pas que ça change, il ne faut pas que ça bouge. Vous voyez? Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont violents. Et c'est ça, moi, alors, ils me demandent comment on fait là? Comment on fait quand on est aux prises avec ça? Donc là, ben, on interpelle les élus, non? On leur demande. Alors, on fait quoi? Non. On interpelle le ministère. Parce que là, les bibliothécaires m'ont posé la question à moi. Je leur ai dit, je ne suis pas compétente, je ne peux que compatir, je ne peux que vous soutenir moralement. C'est ce que je fais depuis 15 ans. Mais alors, concrètement? Parce que là, c'est... Ça pose question, non? On fait quoi, là?
C'est des gens qui sont élus, hein. C'est aussi ça, la grosse difficulté de base.
Marie-Claire,
je veux dire que par rapport à tout ça, en fait, ça fait référence aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent, qui d'ailleurs mélangent tous les termes, hein, culture, identité, mais qui considèrent que ces deux termes sont figés. C'est-à-dire, je suis née comme ça, ma culture, c'est ça, mon identité, c'est ça, et elle s'arrête aujourd'hui. Et en fait, c'est aussi contre ça qu'on a à lutter. C'est cette espèce d'arrêt du temps. Et en réalité, ma culture, elle se construit en se frottant à celle de l'autre, en découvrant des nouvelles choses. Et c'est incessant tout au long de la vie, et heureusement. Or, pour beaucoup de gens, et vous remarquerez que pour ces gens-là, la culture s'est arrêtée dans le temps. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement.
C'est très important ce que tu dis, parce que en théâtre, je crois qu'on le sait particulièrement bien, qu'on désapprend à chaque fois. On se confronte à un nouveau texte et il faut remettre, je ne dis pas faire la page blanche à chaque fois, puisqu'on accumule quand même des choses, mais en tout cas, on accepte de se remettre dans cette nouveauté à chaque fois de l'apprentissage. Et voilà, parce que l'incarnation repasse à chaque fois par ça, et c'est le métier de l'acteur quand même, ça. Donc ce que tu dis là est très juste par rapport à cette notion d'identité. voilà, qui est une notion fermée au bout du compte, ou en tout cas qu'on envisagerait comme fermée, pas comme multiple et ouverte. Voilà, mais c'est assez important ce que tu dis. Et on le voit de plus en plus, tu as raison.
Et on envisage ça comme une culture de la métamorphose, et c'est ça qui s'entend, que tu parles en tant que parent, mais même dans les parents de conservatoire, il y a aujourd'hui cette appréhension. Et on le voit dans les livres qui sortent. Ostermayer là vient de sortir Le théâtre et la peur. Donc on a peur de la déformation de l'enfant, et on n'entre pas dans le processus de création qui serait un processus de création de la métamorphose.
Je crois que la peur, c'est vraiment le sentiment prégnant aujourd'hui dans toute la société. Peur des la société, elle est en plein boom numérique, économique, sociale, etc. Et la peur, c'est vraiment on se fige quand on a peur, on se contracte.
Il y a
c'est
exactement ce qui se passe.
Je pense que la loi, on n'en a pas parlé non plus, mais pour ça, a posé peut-être une petite graine qui reste à travailler, qui est en référence avec l'article 103 de la loi NOTRe, qui est un article sur la reconnaissance des droits culturels. Et je pense qu'on a travaillé beaucoup sur ce sujet. C'est ce qu'on va faire tous ensemble, mais au sein de la COFAC dans l'année qui vient. C'est ce que je vais faire aussi au Conseil économique et social, puisque l'avis va être rendu en juin l'année prochaine. Et il y a à dire ce que c'est que cette liberté-là. Qu'est-ce que c'est que ce droit-là ? J'ai le droit d'avoir une culture, j'ai le droit d'exercer ma culture, j'ai le droit d'être acteur de ma propre culture. Et c'est ça qu'il faut vraiment expertiser. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont...
Oui, c'est pas sans poser une question. Voilà. C'est quoi mon droit à la culture ? Est-ce que c'est moi ce que je pense qui fait ça. Culture ?
Exactement.
Ou est-ce que quelque chose et puis, existe en dehors de moi et auquel je
dois... Le rôle de l'élu pose beaucoup de questions aussi.
Oui, parce qu'il y a des vraies interprétations sur ces droits culturels qui...
Mais je pense que le Conseil économique et social est un bon endroit pour ça, puisque tous les acteurs de la société civile organisée sont là. Donc s'il y a un moyen de trouver un accord ici, peut-être ça fera progresser à nous.
D'accord. Je vais peut-être passer la parole à la salle. Il y a peut-être des questions. J'avais une question. Une remarque.
C'est pas une question, juste pour faire part d'un film que j'ai vu. Et en vous écoutant tous les uns et les autres, j'y ai beaucoup pensé. Ce film, il s'appelle Alphabet. C'est un Allemand qui a fait ce film. Cet Allemand, il s'appelle Waffenhauer, je ne sais plus comment. Mais en tapant Alphabet, vous le trouverez. C'est sur l'éducation dans le monde. Et il revient sur toutes les questions dont on vient de parler. Il va jusqu'au bout de ces questions. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, ce film, j'ai demandé à mon directeur qu'il soit projeté à tous les enseignants du conservatoire. Je travaille à Béziers, je trouve que on est en plein encœur du problème. Je pourrais vous en citer des exemples. Mais ce film, en fait, il démarre en Chine avec la compétition, et puis il arrive en France et il passe par l'Allemagne, par l'éducation libre, l'écoute de la naissance un petit peu de la fleur de l'enfant, et que quand vous avez une marguerite, eh bien, il ne faut pas vouloir faire pousser une tulipe, voilà, et comment on aide à grandir dans une structure tout en laissant la fleur prendre la forme dont elle a besoin, comment elle a besoin d'éclore. Et le film, voilà, développe tout ça, mais avec toute la perversité qui se construit derrière, c'est-à-dire l'argent, la politique, comment tout ça s'est manipulé avec notre façon de penser d'adulte, et comment on veut formater les choses, et comment en fait on voit les choses d'une façon, et selon les pays, les façons changent légèrement, pour construire un petit peu le peuple, mais Michel Onfray l'appelle la populace, qui va continuer à pouvoir promouvoir l'économie actuelle, etc., etc. Donc je trouve que c'est un film qu'il faut vraiment que tout le monde le voit pour que déjà nous, on soit prêts à changer. Parce que c'est de là où nous, on s'arrêtera que les enfants vont pouvoir continuer à faire changer ce monde. Mais il faut qu'ils changent.
Et pour faire écho et par rapport à ce que vous disiez, l'ennemi c'est la peur, hein, parce qu'on peut avoir peur de se lancer là-dedans ou de perpétrer, mais la peur ça c'est pas nouveau, ça a toujours existé, et c'est juste que la peur là, peut-être ce qu'on peut percevoir actuellement, c'est érigé au rang de quelque chose d'absolument incontournable et qui est lié aux réalités de l'heure. Mais c'est faux, c'est pas lié aux réalités de l'heure. Ça a toujours été comme ça, on a toujours eu peur de quelque chose. Et la seule chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de courage sans peur. Pas peur, on n'a pas de peur.
Oui, mais nos peurs aussi, Bernard Rame dit, notre civilisation a perdu la spiritualité, le sens du sens de notre existence. Donc en perdant ça, nos jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose?
Ben, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose à inventer, non?
Des hommes et des femmes
engagés. Le sens intelligent, je pense, au départ.
Par rapport à ce que vous dites, c'est important ce que je disais tout à l'heure sur les capacités de Martin Nussbaum, parce que certes, c'est donné à chacun. Alors, on pense l'adulte qui donne aux enfants, mais c'est aussi, parce que la censure, c'est grave, elle a toujours tort, disait Victor Hugo, mais l'autocensure est peut-être encore plus... Et dans ces questions de littérature jeunesse ou de théâtre jeunesse, c'est très fort. Quand Suzanne Le Beau parle de ce qu'elle écrit, quand elle écrit « Le bruit des eaux qui craquent », elle dit que c'est les adultes qui refusaient que sa démarche de création, et c'est pas les enfants. Et donc là-dessus, c'est quand vous dites censure, il y a les problèmes de censure, comme vous l'avez évoqué, puis il y a les problèmes d'autocensure. Et alors là, effectivement, ça renvoie à la responsabilité, pour le coup... La construction d'une politique publique, et de dire comment on donne toutes les conditions pour que les gens qui œuvrent à la mise en œuvre de ces politiques ne soient pas dans cette sensation de s'auto-censurer parce qu'ils n'ont pas de cadre qui les aide. Quoi,
financer, c'est accorder sa confiance aussi.
Bien sûr.
Les adultes, ce n'est pas des pervers à qui on confie. C'est ça qu'il faut dire. Oui, j'ai besoin d'argent pour vivre. Faites-moi confiance, je veux le bien. Je veux donner quelque chose.
Oui, mais tu as raison de souligner que la question des moyens est aussi une forme de confiance accordée. Et c'est très important, on ne le dit pas assez, le sens profond que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut prendre une ou deux questions, peut-être. Voilà. Oui, fini.
Oui, bonjour. Philippe Latin, je suis enseignant, professeur d'enseignement artistique, j'enseigne au Mans, conservatoire de Nantes. Petite question pour savoir exactement quels sont les étudiants qui sont inscrits dans la loi. Vous disiez que le statut d'étudiant est inscrit dans la nouvelle loi.
Oui. C'est ce qu'on a demandé depuis le début, c'est-à-dire les étudiants qui sont post-bac, mais pas encore dans l'enseignement supérieur.
Donc, sont majeurs.
Les majeurs, post-bac et pas encore dans l'enseignement supérieur.
J'entends bien, mais nous, dans nos cycles et dans notre cursus de l'enseignement, nous avons des cycles 3, cycle 1, 2, 3, et nous avons des cycles pour certains conservatoires d'enseignement spécifique. Donc, à quel endroit se situe
tout? Il n'y a pas de
tout. Tout après 18 ans.
Tout à partir de 18 ans.
C'est génial.
On a le bac.
Ça, c'est extraordinaire.
Avant qu'on soit dans un moule sup, dans un supérieur, on a statué.
Pôle sup et les gens qui seront inscrits dans ces futures classes préparatoires.
Oui, classe prépa.
Pas les gens qui seront dans une classe qui ne seront pas dans une classe
donc préparatoire. Donc les cycles 3 amateurs, les cycles 3 amateurs ne sont pas concernés. Nous levons un lièvre.
Non, c'est pas un lièvre. La réponse, elle est pratique pour moi, c'est je ne sais pas encore.
Okay.
Il n'y a aucun décret et aucun arrêté qui sont sortis sur l'organisation de ces futures, on appelle classes préparatoires, mais en vrai, dans la loi, c'est enseignement préparatoire, entrée dans l'enseignement.
Oui, c'est
supérieur.
C'est l'ancien
trop. Oui, c'est ça.
Et donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, là, la réponse, elle n'existe pas, puisqu'on ne l'a encore pas formulée. Et je rassure tout le monde, elle ne sera pas formulée en chambre, puisque il y a l'objectif à la rentrée, c'est de pouvoir en discuter, certes avec les collectivités, comme je disais, mais aussi avec vous. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est certes l'AMPAD, c'est des autres associations de professionnels. Voilà. Mais en tout cas, il nous va nous falloir le publier. Ça, c'est la loi, c'est la règle, dans les 6 mois qui suivent la promulgation.
Donc, là, moi, c'est le 7 juillet. Aujourd'hui, l'automne, alors...
Là, si on compte bien, effectivement, alors bien que l'été ait du temps à arriver, globalement, ça sera l'automne et l'hiver.
Mais ça permettra en tout cas une formidable liberté à beaucoup d'étudiants. à beaucoup ouais. d'élèves post-18 ans et pas seulement en cycle spécialisé, peut-être d'avoir cette liberté en tout cas de suivre les cycles importants dans les conservatoires.
À condition que les cycles de spécialité continuent d'exister et ne soient pas remplacés par les classes préparatoires.
Oui, c'est pas l'objectif premier. C'était quelque chose, puisque les classes préparatoires sont pas là pour se enfin, d'abord, elles se substituent pas entièrement au COP et au CEPI, hein, puisque c'était comme ça. Et donc, il va falloir effectivement inventer un équilibre entre ces classes où les élèves qui les intégreront auront clairement affiché le choix de se diriger vers une. Enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle classe prépa. Je pense que tout le monde, y compris les, pour le coup, c'est clair pour tout le monde. C'est bien cette idée que quand on rentre à cet endroit, on se prépare à, vouloir, enfin, à passer différents concours, évidemment, pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Mmh. Et il va falloir inventer ce qu'il y a.
Alors, je rappelle que ce terme de prépa, en fait, il est né il y a 5 ans dans une réunion commune entre FUS et Lampad, où le ministère avait été convié, parce qu'à l'époque, il n'avait pas le droit de travailler sur le sujet. Et où cette idée de prépa, en fait, a émergé. Ouais. Et cette idée, c'était uniquement pour donner un statut aux élèves. Donc, c'était pas pour faire une prépa. Donc, il y a eu une petite dérive dans la tête de certains, mais n'empêche que l'idée, c'était vraiment de donner un statut aux élèves.
Aujourd'hui, on a... Maintenant, c'est écrit, et puis il va falloir inventer, effectivement.
Oui, donc voilà, en tout cas, il y a un point à travailler, là.
On l'a tous bien identifié, si ça peut vous rassurer. Par contre, on a tous bien identifié que cette question, effectivement, classe préparatoire COP, elle est vite.
Oui, bien sûr, oui.
Et centrale, et dans la question de l'équité territoriale,
oui,
et dans la
sûr.
Question
effectivement c'est un sujet important pour bien nous sûr. Et pour l'affirmation des départements art dramatique dans bien les sûr. Conservatoires, en plus, particulièrement.
Les classes prépa, c'est quoi? C'est les classes prépa liées aux écoles supérieures ou alors c'est.
Non, on parle bien des
CPI et des COP.
On parle bien des classes prépa, parce qu'il y a deux choses. Il y a les CPI, les classes prépa intégrées. À l'enseignement supérieur, et puis il y a
aujourd'hui, la classe prépa n'a aucune existence juridique telle qu'on vient d'en parler là. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est dans la loi, on a supprimé le CEPI pour en faire un enseignement préparant l'entrée dans le supérieur. Il va donc falloir inventer l'organisation de cet enseignement à travers un décret et un arrêté. Voilà. À côté de ça, il existe avant.
C'était un peu l'idée de la classe prépa. Oui. La dénomination telle qu'a été un peu tirée par les cheveux.
Dans l'idée de communication, on l'a appelée classe prépa. Mais aujourd'hui, les seules classes prépa qui existent, c'est celles que vous connaissez. C'est celles qui sont à Saint-Étienne. Et pour l'instant, c'est les seules qui existent, c'est celles-ci.
On n'est pas sûr que finalement le régime ne soit pas s'appliquer.
C'est pas l'esprit dans lequel on a. Je pense que ça a été imaginé, mais je pense pas que ça s'appliquera qu'à eux. Et puis là, on est sur parce qu'il y a le théâtre, c'est la danse, c'est la musique qu'il faut envisager. Pas la danse.
Mais quel est le critère?
La danse, il y en a, il va falloir qu'il y en ait. C'est sûr, il va falloir qu'il y ait des enseignements pour parler entre dans le sud, dans la danse, bien sûr.
Oui, mais sauf que les élèves ne sont pas majeurs.
Ah oui, non, mais là, on retombe sur le débat majeur. Mais moi, là, je pense que la question, c'est vraiment sur l'organisation de ces futurs enseignements. Or,
aujourd'hui, en fait, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est l'équivalent du troisième cycle, en gros.
Oui, de certains cours, oui. Mais pas du tout.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a des coqs qui commencent en deuxième.
Bien sûr.
Ouais. Moi aussi, j'avoue, je n'ai pas très.
Le COP en même temps est. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, les COP, pour le coup, là, on n'est pas du tout dans une construction ni égalitaire, ni équitable, ni quoi que ce soit, puisqu'on sait tous très bien que les COP aujourd'hui, effectivement, vous venez de le dire, recouvrent des réalités très diverses selon les endroits.
Deux régions expérimentales.
Et les CEPI, et de toute façon, ces enseignements préparés à l'entrée dans le sud, très clair, c'était deux régions, c'était Poitou et
CEPI, voilà, exactement. Qui ont bien fonctionné.
Ouais,
c'est tout le
regret. Dans le schéma, il y a toujours le mot COP.
Dans le schéma, il y a toujours le mot COP. Mais effectivement.
C'est bien défini que c'est 16 heures, 10 heures par semaine.
C'est pour.
C'est très carré, c'est post-bac obligatoirement. parce que c'est pas compatible avec...
16 heures, c'est quand même difficile.
C'est comme si c'était compatible avec les études secondaires.
Non, mais vous avez raison, c'est défini dans le schéma. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à côté du gros chantier urgent du décret de l'arrêté de l'organisation de ces enseignements, va s'ouvrir un chantier, je n'estime pas moins gros, sur la révision des critères et donc des schémas d'orientation pédagogique. Là, vous me posez une question.
Toutes spécialités confondues.
Non mais c'est compliqué, les COP théâtre, on n'arrive même pas tout à fait à les déterminer parce qu'il y a des réalités très très différentes d'un conservatoire à l'autre. C'est très compliqué à identifier.
Le COP, c'est dans le schéma, si c'est dans le texte du schéma, c'est assez clair. Simplement, ce qui n'est pas clair, c'est le diplôme qui est donné à la fin. C'est-à-dire n'importe qui donne un DUT, même au second, deuxième cycle, il y a des établissements qui donnent un DUT. C'est surtout ce diplôme qui n'est pas clair. Mais le COP, selon le SOP, c'est vraiment très clair. C'est défini, c'est cadré. C'est un minimum de 16 heures, de 30 heures de formation. Il y a même eu un arrêté dessus. Ça, là-dessus, c'est plutôt clair. C'est le DUT. Vu qu'on ne fait pas de DNOP, il y a certains établissements qui fait un DUT comme le DNOP, le représentant du ministère, avec des et puis d'autres qui font, c'est le diplôme donné par le prof.
Ça, c'est le deuxième effet qui se coule, hein, parce que dans la loi, on a inscrit le diplôme national. Hein.
Le problème du COP, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une carte nationale qui dépend des initiatives locales, parce que c'est des financements locaux. Il y a un sort de paradoxe complètement fou.
D'accord.
Bien sûr, mais il est cadré quand même en tant que
horaire. On boit un coup.
Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que vous avez un cadrage qui est donné par l'État, qui est exigeant, et que le financement est quasiment exclusivement des collectivités. Et dans une période de crise, hein, c'est vrai que ça bug. Ça bug. Parce qu'à un moment, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir un cadrage très exigeant et un financement qui est fait par quelqu'un d'autre. Mais à un moment, ça ne marche plus. Dans un moment de crise, ça ne marche plus.
C'est vrai,
et c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'en 2003, finalement, la cohérence du système revenait parce que le cadrage exigeant correspondait à un financement d'État. Et là, on est dans un truc qui ne marche pas.
Mais du coup, on finançait ni les communes, ni les départements avaient de l'argent.
Mais parce que l'enseignement de base, il est normal que la collectivité locale l'assume.
Donc ça, dans les CRD, c'était pas le base non plus, c'était ça la difficulté.
Le CRD, à la nuit, je veux dire, le CRD, il aurait dû y avoir une obligation départementale. C'était ça le schéma logique. Et si vous revenez effectivement à la loi des Landes-Ossis, qui était tout de même la grande loi culturelle, au niveau de l'enseignement, ça a été la grande pensée. C'est que vous aviez une sorte de système pyramidal et qui fonctionnait bien ce faisant. Il y avait la formation initiale, c'était la commune, il y avait un deuxième niveau qui devait être départemental et un troisième niveau régional. Et on n'aurait pas ces problèmes, vous voyez. Et c'est vrai que c'est très difficile, on ne sait pas très bien, on l'a mis dans la loi sans savoir exactement ce qui va être. Les CEPI étaient une expérience qui a marché. Les deux régions où il y a les CEPI, ça a assez bien marché.
Dans un truc un peu improbable, puisqu'il n'y avait pas de transfert d'argent.
Et donc, on est dans un système qui sera compliqué.
Donc, on en est encore en plein débat. Le débat continue.
Ça n'est pas fini.
C'est que le début. C'est le jour où
c'est quand même des groupes de travail qui vont continuer à poser ces questions et on a raison de les soulever. C'est-à-dire que deviennent les COP, parce que s'il y a une réécriture des schémas, et visiblement la chose n'est pas claire du point de vue du ministère, je réitère absolument notre demande que en tant que professionnel, nous soyons
présents. Elle a été entendue, je lui ai dit qu'elle était même présente. Acceptée, puisque...
Il est important qu'on soit vraiment consulté sur cette chose-là. On va être obligé de conclure parce qu'on a une deuxième table ronde. Et puis, on a carrément débordé. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que nos trois invités et puis notre grand témoin, Annie, je vous remercie vraiment beaucoup parce que ces trois points de vue qu'on a eus, ces trois points de vue très précis. Non, vous n'avez pas été froid et technique, je ne trouve pas. Je trouve qu'au contraire, c'était très pédagogique. C'est très important qu'on entende ça. Et je trouve qu'on a travaillé, en tout cas, notre sujet de la liberté, mais à travers la question institutionnelle, la question des législatives, etc. Et que c'est un endroit évidemment très important dans une démocratie, quand même, cet endroit-là d'être préservé de façon législative aussi et institutionnelle de cette question de la liberté. On a moins abordé peut-être la question de la liberté pédagogique, mais on a une autre table ronde dans laquelle on l'abordera. Voilà, voilà. Donc en tout cas, un grand merci pour avoir nous avoir éclairé, je pense, vraiment sur la question. Voilà.